Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Vladimir Fedorovski est aujourd'hui l'invité de Franck Ferrand. Il vient nous parler d'espionnage au féminin. Bonjour Franck.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Vladimir Fedorovski, pilier de cette émission, fait paraître au Rocher le roman des espionnes, avec en couverture une belle photo de Mata Hari. L'une des espionnes dont il nous raconte l'aventure a été impliquée dans l'assassinat de Trotsky à l'été 1940. Et à titre de préambule, je vais vous raconter cet épisode. Vous allez voir, c'est tout à fait digne du cinéma, des grands films d'aventure.
Et à la fin de l'émission, vous répondrez à la question posée par Sophia sur la page Facebook de l'émission. Sophia voudrait connaître les origines du droit de veto.
Eh bien, nous allons tâcher de répondre à Sophia. Pour le moment, je vous propose de traverser l'Atlantique et d'aller retrouver au Mexique un réfugié politique du nom de Trotsky.
Au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Très beau temps, journée douce, lumineuse, très agréable à Mexico ce 20 août 1940. En Europe, l'Allemagne nazie vient d'envahir la France. L'Angleterre est en état d'alerte maximale, mais tout cela, vu du Mexique, a l'air bien éloigné. Approchons-nous, en cherchant un peu d'ombre, de cette maison bien défendue dans le quartier de Coyoacán, au sud de la métropole mexicaine. On dirait une mini-forteresse, vous savez. Il faut vous dire que c'est là que depuis 3 ans, se terre le plus célèbre des exilés russes, un homme qui fuit la police soviétique et les agents de Staline, Léon Trotsky. En 1929, il a été chassé du RSS par Staline et c'est ici qu'après de longues errances à travers le monde, nous allons y revenir, il a finalement trouvé refuge en 1937. Ce 20 août, 1940, il est un peu plus de 17h30. À l'intérieur de la maison, faut imaginer ce climat mexicain, ces atmosphères de clair-obscur. Natalia Trotsky se trouve dans un petit salon, tout près, juste à côté du bureau de son mari, quand elle entend un hurlement strident comme un cri d'agonie. Elle se précipite dans la direction de ce cri et là, dans l'encadrement de la porte de la salle à manger, elle voit son mari, Léon Trotsky, encore debout mais plein de sang, essayant de s'agripper au chambranle, les lunettes tombées de ses yeux. Elle le rattrape comme elle peut dans ses bras. Mais qu'arrive-t-il? Qu'arrive-t-il? Et déjà, bien sûr, on se précipite. Pour toute réponse, le blessé lâche dans un souffle un nom qui va résonner comme une accusation. « Jackson », dit-il. Et la question se pose, comment Trotsky, exilé au Mexique, comment a-t-il pu être atteint au cœur même de cette maison qu'il avait pourtant pris soin d'aménager en camp retranché? Avant de répondre, la première chose à faire, c'est de se demander qui était vraiment Léon Trotsky. On parle beaucoup depuis quelques années de trotskisme et de trotskistes. Tout à l'heure, avec Vladimir Fedorovski, nous essaierons de voir d'où vient justement ce courant du communisme. Le moment est venu peut-être de parler déjà de son fondateur, de Léon Trotsky lui-même, qui est né 6 décennies plus tôt, le 7 novembre 1879, à Yanovka, on est dans l'actuelle Ukraine. Il est né de parents aisés. Ce sont des Russes d'Ukraine de confession juive. Le vrai nom de Trotsky, c'est Lev Davidovich Bronstein. Il est le 5e enfant de David Bronstein et d'Annette Lvovna. C'est pas très facile à prononcer hein, quand on n'est pas russophone. Les parents de Trotsky, enfin les parents de Léon, possèdent un khutor, c'est-à-dire une sorte de ferme autonome qui n'est pas affilié à un grand domaine. Son père a bénéficié, vous savez, des réformes qui, depuis Catherine II, en passant par un certain nombre de ses successeurs, ont donné aux Juifs un certain nombre de terres à cultiver. Des terres qui, dans cette famille, se sont littéralement accrues dans de grandes proportions. Les parents de Léon sont encore une fois très aisés. Ils emploient même des chrétiens. Dès l'âge de 18 ans, en 1898, Léon n'en choisit pas moins d'abandonner ses études études de mathématiques. Son père l'imaginait déjà ingénieur, on était dans un processus d'élévation sociale. Et lui va épouser la cause anti-tsariste. Il est déjà révolutionnaire et d'ailleurs, c'est bien comme révolutionnaire qu'il se trouve bientôt arrêté, transféré de prison en prison. On le voit à Nikolaïev, bien entendu, mais aussi à Kherson. Il va être envoyé à Odessa. En 1900, il épouse une jeune marxiste, Alexandra Lvovna, décidément Sokolovskaya, pour éviter d'être séparé d'elle parce qu'il devait être déporté en Sibérie. Ils auront deux filles ensemble. Alors, il va s'évader, Léon, et sur son faux passeport figure ce nom de Trotsky, qui désormais va être le sien. Ce nom de Trotsky, il vient d'un gardien de prison dont il va prendre ce patronyme comme pseudo. Il laisse femme et enfant derrière lui et sous cette fausse identité de Trotsky, il rejoint d'abord l'Angleterre, il va retrouver Lénine à Londres, il collabore avec lui à la rédaction du premier journal socialiste russe, Iskra. Et puis, en 1903, il est à Paris et là, il va épouser Natalia Sedova. Mais ce mariage n'est pas enregistré puisque, que je sache, Trotsky n'a pas divorcé d'Alexandra Sokolovskaya. En 1905, il rentre illégalement en Russie. Il se jette corps et âme dans ce qui est la première révolution russe en 1905. Il préside d'ailleurs le soviet de Saint-Pétersbourg qui a été improvisé sur place. Il a 26 ans donc à ce moment-là. Et il est arrêté en décembre 1905, libéré sous la pression de l'opinion internationale. Parce qu'il faut vous dire qu'il est devenu déjà une figure assez connue. Il va vivre en exil, notamment en France. Il prépare la révolution, toujours, hein, c'est son obsession. Il rentre en Russie, évidemment, en mai 1917. À ce moment-là, le tsar a déjà abdiqué, le régime a déjà chuté. Mais vous savez qu'il y a en Russie, quand on parle de 1917, il y a ces deux événements. Il y a l'abdication du tsar au tout début de l'année et il y a la révolution d'octobre seulement, à la fin de l'année, comme son nom l'indique. Et entre les deux, il y a eu cette espèce de longue gestation avec les mencheviks, avec un gouvernement qui n'était plus un gouvernement monarchique, mais qui n'était pas encore un gouvernement révolutionnaire. Il adhère donc au parti bolchevique en juillet, il devient membre du comité central en août, et avec Lénine, avec Sverdlov, avec celui qui deviendra Staline, etc., il va jouer un rôle éminent dans cette révolution d'octobre. Il sera commissaire du peuple aux affaires étrangères, c'est très important, mais surtout à la guerre. C'est à lui qu'on doit la formation de l'armée rouge, la conduite de la guerre civile pendant 2 ans et demi dans son fameux train blindé. Vous savez, il va parcourir la Russie, il fait front partout, il colmate les brèches, il écrase les séditions, comme disent, pour employer le vocabulaire adéquat. Il est infatigable, d'une efficacité redoutable, et si les Rouges finissent par l'emporter, on peut dire que c'est en grande partie à Trotsky qu'ils le doivent. Or, à la mort de Lénine, en 1924, il y a une véritable lutte pour le pouvoir. Avec Staline, Trotsky, qui a été l'intime de Lénine, qui est le plus brillant des membres de la vieille garde, s'attendait à être élu à sa succession. Selon l'historien Ronald Sett, Trotsky affirmait que Lénine lui-même avait dit que Staline était le dernier homme qu'il faudrait choisir pour diriger soit le parti, soit l'administration après sa mort. Il ajoute « Quand la sclérose des artères cérébrales de Lénine se déclara en 1922, la santé du leader empira rapidement. Pendant cette période, ses capacités de chef déclinèrent de jour en jour et Staline en profita pour se servir au maximum de sa situation de secrétaire général. Après tout, Staline est aux commandes, il est la cheville ouvrière. Il va en profiter pour pousser ses pions, pour installer partout des éléments à lui. Staline, en quelque sorte, est mieux armé que Trotsky puisqu'il bénéficie de tous les rouages du parti, mais aussi de ceux de l'État. Alors, il va d'abord faire enlever à Trotsky ses attributions officielles. En 27, il le fait expulser du parti et il le fera même déporter en Sibérie. Trotsky arrive à s'échapper et il commence à ce moment-là ce long exil à partir de 1929, un exil qui ne connaîtra pas de fin. Et pendant la douzaine d'années que va durer cet exil, Trotsky n'en continue pas moins à publier des livres, à retrouver autour de lui un certain nombre de partisans, bien entendu. Alors on le voit passer en Turquie, en Suisse, en Allemagne, en Angleterre, en Suède. Il faut dire qu'il y a un certain nombre de pays comme l'Angleterre, la Suède, le Danemark qui refusent de l'accueillir. Staline obtient son expulsion de Norvège. Trotsky se réfugie à ce moment-là en France. Il y a le Front Populaire, vous savez, et à ce moment-là, l'Alliance franco-soviétique. On craint Staline et Trotsky fait toujours beaucoup de bruit. Alors la France lui demande de bien vouloir quitter le territoire. Il demande alors au gouvernement mexicain de le recevoir et le président Cárdenas va accepter sa requête. Il accueille donc Trotsky, sa femme et son secrétaire américain Robert Sheldon Hart.
C'était la symphonie numéro 10 de Dimitri Shostakovitch sur Europe 1 et nous retrouvons tout de suite Franck Ferrand qui nous raconte aujourd'hui l'assassinat de Trotsky.
Et oui, alors avant cet assassinat, il y a eu bien sûr quelques années, puisqu'il arrive au Mexique en 37 et qu'il sera assassiné en août 1940. Il s'installe donc dans une villa de ce faubourg de Mexico. Voici ce que nous raconte Alain Decaux. À Mexico, avec l'aide de ses partisans aux États-Unis, le vieux, comme l'appelle affectueusement son entourage, a acheté une grande maison de style colonial dans le quartier de Coyoacán, au coin de la rue de Vienne et de la rue Morelos. Primitivement, cette maison était entourée de grilles. Le vieux l'a fait entourer par un mur de béton flanqué de deux tours crénelées, en même temps qu'il dotait l'entrée d'une porte blindée. Dans les tours, il a fait placer des mitrailleuses, des secrétaires gardes du corps armés veillent jour et nuit sur la sécurité du vieil homme. Entre parenthèses, vieil homme, il a à peine une soixantaine d'années, mais enfin bon, à la limite, on est dans les années 1940. Dans cette maison, il habite avec sa femme Natalia et son petit-fils Sieva. Et Deutscher, qui a été son grand biographe, qui a d'ailleurs définitivement établi la thèse de son assassinat, nous dit « Jour et nuit, 5 agents de police étaient de garde à l'extérieur dans la rue et 8 ou 10 trotskistes environ gardaient la maison à l'intérieur ». Il était quand même assez inaccessible, ce Trotsky. Les trotskistes, nous dit Deutscher, vivaient sur les lieux. Après un tour de garde au portail, ils travaillaient en qualité de secrétaires, participaient aux activités domestiques et surtout aux débats qui avaient lieu régulièrement le soir, à moins que l'arrivée de visiteurs ne transformât le jour proprement dit en période de débat. On parlait beaucoup. On a la parole facile dans l'entourage de Trotsky, ça ne surprendra personne. Il pratique quand même le sport, le réfugié célèbre. Il marche beaucoup, il fait des ascensions en montagne, il se met aussi à ramasser des cactus énormes et rares, dont il va faire une véritable collection. Il est donc entouré de sa famille, mais aussi d'amis, de gens qui veillent sur lui. Sa maison, vous l'avez bien compris, est très protégée. Il faut dire qu'il a vraiment des raisons de craindre pour sa vie. On a déjà voulu l'abattre en Europe. On a forcé son coffre. On a volé plusieurs dizaines de kilos de papier quand même. Staline a fait déporter sa première femme, son gendre. Sa fille s'est suicidée. On a fait en Union soviétique accuser son fils Serge d'empoisonner les ouvriers de son usine. Ce qui fait que comme ça, on a pu le déporter en Sibérie. Une fois déporté, on n'a plus jamais eu de nouvelles. De ces innombrables victimes du stalinisme. Au cours de l'hiver 37, son fils Léon Sédov est victime d'une tentative d'empoisonnement dont on voit là encore d'où vient, dont on connaît l'origine. C'est un échec, mais il va quand même se faire examiner à Paris où il subit une opération sans gravité. Et là, je cite de cause, la première nuit qu'il passa seul dans sa chambre, un infirmier le trouva à 4h du matin marchant tout nu dans les couloirs et criant « au secours, ils m'ont empoisonné ». Il mourut quelques heures plus tard et les circonstances de sa mort parurent tellement suspectes aux autorités médicales qu'elles informèrent la police. L'autopsie révéla que la mort de Sédov pouvait être due à des causes naturelles, mais le médecin légiste n'en refusa pas moins le permis d'inhumer. Grand scepticisme évidemment au sujet de cette mort. Le 16 juillet 1938, le secrétaire de Trotsky, Rudolf Clement, qui était resté à Paris, sort de son appartement, mais on peut dire qu'il n'y reviendra jamais, et son cadavre décapité sera retrouvé 2 ou 3 semaines plus tard dans la Seine. Dans la nuit du 24 au 25 mai 1940, alors que tout est calme, on dort dans la maison de Trotsky, vous avez Léon et Nathalie Trotsky bien entendu, leur petit-fils Yeva dans une chambre voisine, les secrétaires gardes du corps sont dans leur propre chambre, ainsi que trois domestiques mexicains, et aussi un couple de Français amis. Celui qui veille l'homme de garde, c'est le fameux Robert Sheldon Hart dont je parlais tout à l'heure, ce jeune Américain, et hors les murs, il y a un poste de policier qui assure la garde extérieure. Bon, on est là dans la nuit, je dis bien du 24 au 25 mai 1940. L'assassinat, lui, ce sera le 20 août 1940. Et tout à coup, Nathalie, Lee et Léon Trotsky sont tirés de leur sommeil par une violente fusillade. Tellement proche cette fusillade, nous dit Decaux, que le fracas en est inoubliable. Aussitôt mu par un réflexe de révolutionnaire, le vieux se laisse glisser sur le plancher et entraîne sa femme. Ils sont là, sur le sol, allongés, immobiles. Les balles sifflent au-dessus de leur tête. De la fenêtre, on vise le lit. On constatera un peu plus tard que le matelas et les oreillers ont été traversés de part en part. Vous comprenez maintenant pourquoi, évidemment, pourquoi Trotsky se méfie. Alors, l'enquête va démontrer que c'est Robert Sheldon Hart, là, le fameux Américain, qui, au lieu de veiller sur Trotsky, aurait été complice avec les assassins ce soir-là. Mais Trotsky, pour sa part, ne voudra jamais croire à la culpabilité de son ancien secrétaire. Et même, il fera poser une plaque sur une des tours de la maison à la mémoire de Robert Sheldon Hart, dit la fameuse plaque, assassiné par Staline. Mais ce que Trotsky ne sait pas, en mai 1940, c'est que quelqu'un d'autre dans son entourage est en train d'organiser son assassinat. Et c'est là qu'intervient le fameux Jackson. Vous savez, quand il est mort, il a prononcé ce nom-là. Ce personnage, qui s'est présenté sous l'identité de Jacques Mornard, fils d'un diplomate belge, a-t-il dit, ce personnage a rencontré Sylvia Ageloff, qui est une jeune militante amie de Trotsky, à Paris, à l'été 1938. On peut dire que tout ça a été cousu de fil blanc. Sylvia va être le cheval de Troie des agents de la GPU pour entrer dans la forteresse mexicaine de Trotsky. Il la surveillait depuis longtemps, cette trotskiste. Dutcher nous dit, elle pouvait apporter une aide précieuse au vieux qui se plaignait si souvent d'être paralysé dans son travail par l'absence d'une secrétaire russe. Cette vieille fille solitaire, dont l'aspect n'était guère séduisant, se vit tout à coup l'objet des assiduités d'un joli garçon tiré à quatre épingles, Jacques Mornard donc. Elle succomba et passa avec lui en France plusieurs mois d'oubli total comme dans un rêve. Eh oui, Mornard, vous l'avez compris, a été recruté par le fameux Leonid Eitingon, qui est un agent de la Tchéka dont nous allons reparler tout à l'heure avec Vladimir Fedorovski. Et le pseudo Mornard et Sylvia deviennent amants. Elle vit, elle, un véritable rêve. Elle n'y croit pas. Elle aurait dû quand même se méfier un peu. Finalement, ils vont traverser l'Atlantique. Mornard la rejoint à New York en septembre 39, après s'être procuré un passeport au nom de Jackson. Voilà pourquoi désormais on parlera de Jackson. Alors, Jackson va la rejoindre à Mexico. Et puis, non d'ailleurs c'est l'inverse, c'est lui qui se rend à Mexico et puis il signale à Sylvia qu'il y est, elle va le rejoindre à Mexico et là évidemment elle ne va pas tarder à entrer en contact avec Trotsky et son entourage. C'est exactement ce qu'avait prévu la GPU bien entendu. Alors au départ Jackson sert un peu de chauffeur si vous voulez, il l'accompagne jusque devant la maison et puis comme il y a les gardiens, les policiers devant la maison, ben il va sympathiser avec eux, il est toujours souriant, il est là, il attend, il va petit à petit devenir un familier de cet entourage de Trotsky, un familier dont vous avez bien compris qu'il n'est ni plus ni moins que le loup dans la bergerie.
Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions ou réagir à l'émission si vous le souhaitez sur la page Facebook Au cœur de l'histoire et sur Twitter également via le hashtag ACDH. Surtout, restez avec nous. Dans un instant, Franck Ferrand revient sur Europe 1. Au cœur de l'histoire continue jusqu'à 15h sur Europe 1 et nous sommes avec vous, Franck Ferrand. Vous nous racontez aujourd'hui l'assassinat de Trotsky.
Alors, vous avez bien compris que Trotsky est très très en danger maintenant. Il y a eu déjà un premier attentat contre lui au mois de mai. D'ailleurs, la première rencontre entre Trotsky et celui qu'on va appeler Jackson pour le moment a eu lieu le 28 mai, c'est-à-dire peu de temps après l'attentat qui visait la maison de Trotsky. Mais lorsqu'on consulte les rapports conservés par les gardes, on s'aperçoit que Jackson n'est entré dans la maison que 10 fois du 28 mai au 20 août. Le 17 août, Trotsky l'a quand même invité dans son cabinet de travail. Ils ont passé 10 minutes à parler d'un article que devait faire Jackson, justement. Et à leur sortie du cabinet, Trotsky a dit à sa femme qu'il n'avait aucun désir de revoir Jackson, qu'il l'avait trouvé impoli. Il faut vous dire que Jackson avait gardé son imperméable et son chapeau sur la tête pendant tout le temps de l'entretien. Et pourtant, Jackson va revenir évidemment une dernière fois, le 20 août, journée fatidique. Isaac Deutscher nous dit « Le mardi 20 août arriva et tous ceux qui s'en souvinrent plus tard gardèrent présent à l'esprit la sérénité et la paix exceptionnelle qui régnait dans la maison jusqu'à l'heure fatale. Le soleil était éclatant, le vieux rayonnait de calme, de confiance » et d'énergie. Lorsqu'il se leva à 7h du matin, il se tourna vers sa femme, non point avec l'habituelle plaisanterie sinistre « Tu vois, cette nuit, ils ne nous ont pas tués ». Il avait une expression de bien-être physique, au contraire. « Il y a longtemps que je ne me suis pas senti aussi bien », lui dit-il. Il est sorti dans le patio donner à manger aux lapins. Il s'en est occupé pendant 2 heures. Il est rentré déjeuner. Puis l'après-midi, vers 17h, il est retourné s'occuper des lapins. Et Natalia, passant sur le balcon, a remarqué près de lui quelqu'un qu'elle n'a d'abord pas reconnu. Il portait encore le fameux chapeau et l'imperméable, entre parenthèses, alors qu'il y avait un grand soleil, vous l'avez compris. Elle lui a fait la remarque d'ailleurs. « Il va peut-être pleuvoir », a répondu l'invité. L'invité, c'était de nouveau le fameux Jackson, qui était revenu avec son fameux article. Ils sont entrés dans le bureau et Deutscher écrit « Au moment où ils entraient dans le cabinet de travail, la pensée que cet homme pouvait me tuer traversa comme un éclair l'esprit de Trotsky. C'est du moins ce qu'il déclara à Natalia quelques minutes plus tard, lorsqu'il fut étendu, tout sanglant, sur le parquet. » Alors que s'est-il passé? Trotsky s'est assis à son bureau. Jackson avait dissimulé sous son imperméable un piolet, vous savez, un pic à glace. Et au moment que Jackson pensait sans doute que sa victime mourrait directement sous le choc du coup, Trotsky a poussé un cri déchirant. Et là, l'assassin, évidemment, a été surpris. Deutscher nous dit « Le crâne broyé par le coup de piolet. Le visage ensanglanté, Trotsky bondit, lança au meurtrier tous les objets qui lui tombaient sous la main, livre, encrier et même le dictaphone. Puis il se jeta sur lui. Tout cela n'avait pris que 3 ou 4 minutes. Le cri perçant et déchirant fit se lever Natalia et les gardes d'un bond. Mais il leur fallut quelques instants pour se rendre compte de l'endroit d'où il était parti et pour se précipiter dans cette direction. Pendant ces quelques instants, une lutte furieuse s'engagea dans le cabinet de travail. La dernière lutte de Trotsky. Il se battit comme un tigre. Il se colleta avec le meurtrier, lui mordit la main et lui arracha le piolet. Le meurtrier fut si confondu qu'il ne porta pas un autre coup et n'utilisa pas son pistolet ou sa dague. Et pourtant, Trotsky a été convaincu que Jackson lui avait tiré dessus. Il n'a pas cru sa femme, Natalia, lorsque, agenouillée près de lui, elle lui a assuré qu'il n'avait reçu qu'un coup de piolet, que la blessure avait l'air superficielle. Il demande en anglais à Hanson de prendre soin de Natalia, car elle a été à son côté pendant toutes ces longues années. Elle est, elle, en larmes. Elle embrasse la blessure pendant que son mari lui embrasse les mains. Et pendant ce temps, Jackson, lui, a été capturé par les gardes du corps de Trotsky qui le battent à coups de crosse de revolver. Alors, le hasard voudra que les deux hommes soient hospitalisés, parce qu'il était blessé, lui aussi, finalement, du fait de la rixe. Ils ont été hospitalisés dans le même hôpital et dans des chambres contiguës. Trotsky ne mourra que le lendemain soir, hein, mercredi 21 août 1940, vers 19h25. Et ça a été, bien entendu, un événement important à l'échelle mondiale. Alors évidemment, en France, c'est passé un peu inaperçu, parce que inutile de vous dire que le 21 août 1940, les Français avaient vraiment d'autres préoccupations. Mais c'est un événement historique important. L'assassin de Trotsky sera jugé et le 16 avril 1943, il sera condamné par la Cour de Mexico à 20 ans de prison, qui est la plus haute peine que prévoyait la loi mexicaine. 20 ans pendant lesquels il ne dira rien sur ses actions. Et pendant son procès, il assurera toujours n'avoir agi qu'en légitime défense. La vérité verra finalement le jour grâce à un médecin légiste et psychiatre, le docteur Quiros Cuaron, qui, après une longue enquête, finira par établir de façon formelle l'identité de ce prétendu mornard, c'est Mercader, dont nous allons parler dans un instant avec Vladimir Fedorovski. Bonjour Vladimir.
Bonjour, pas perdu mon accent.
Non, ça, on est tout de suite dans l'ambiance, effectivement. Quand Mercader est recruté par la GPU, il sait d'ores et déjà quel sera le but ultime. C'est un tueur.
Évidemment. L'histoire est formidable. On a parlé des espions. Mes espions, c'est toujours l'amour, mystère et évasion. Et je dois vous dire, l'amour est au centre de ça. C'est tout a commencé, vous imaginez, la guerre d'Espagne. Une des plus combattantes de la guerre d'Espagne, une aristocrate d'origine cubaine, Maria Mercader, dit à son amant, « Je voudrais donner à Staline le meilleur cadeau. » Et c'est quoi ? C'est mon fils.
Eh bien voilà, le fils en question, on voit ce qu'il va donner. Nous y venons dans un instant, en votre compagnie, Vladimir Fedorovski, et avec l'accent bien entendu.
Au cœur de l'histoire, sur Europe 1, nous retrouvons Franck Ferrand et son invité, Vladimir Fedorovski, écrivain et ancien diplomate, auteur du livre Le roman des espionnes aux éditions du Rocher.
Vladimir Fedorovski, l'auteur russe le plus édité en France. Vous tenez beaucoup.
Et le roman des espions, c'est le 32e livre, comme je vous ai dit. Il y a beaucoup de mystères, beaucoup d'évasions, mais surtout l'amour est au cœur de l'histoire.
Alors, avant l'amour, il y a la réelle politique, puisque vous nous parlez d'espionnage, et il faut que nous établissions le lien entre cet assassinat de Trotsky et la police politique soviétique. Il y a un nom qui revient toujours, c'est Leonid Aitingon.
Leonid Aitingon, un personnage à part. Tout a commencé à Sochi, il y avait, vous savez, les Jeux olympiques. Staline convoque ses meilleurs espions et il dit « Il faut me trouver une espionne, parce que la guerre est inévitable et nous avons le redoutable Trotsky qui peut nous compliquer la vie dans la lutte qu'Hitler, il faut le tuer. » Il charge, c'est un personnage à part, je le décris vraiment en détail, il sillonne l'Europe, il entre en contact avec Eva Braun, toujours à travers une espionne, une actrice
d'Hitler.
Il a failli d'ailleurs tuer Hitler. Et puis, il est en Espagne, en combattant la guerre d'Espagne, dans les brigades internationales, mais en réalité, il est décrit si bien par un grand écrivain américain, il est au centre.
Eh oui.
Hemingway.
Bien sûr.
Hemingway, pour qui sonne le glas, et puis, une sorte de liaison, c'est un homme à femme, une sorte de liaison torride avec cet aristocrate. Il cherche comment entrer dans l'entourage de Trotsky.
Maria Caridad.
Maria Caridad. Et Maria Caridad propose que son fils exécute les choses. Vous avez dit un film, et vous avez raconté ça d'une manière exquise, comme un film. Mais les gens, ils se souviennent peut-être, il y avait un film avec Alain Delon. Et Alain Delon ressemble comme deux gouttes d'eau à ce
Mercader,
disant Jackson, un playboy, un amateur des grands vins, des voyages, mais en même temps un redoutable professionnel de l'espionnage. Et il entre dans les sièges. Vous savez, je décris souvent dans les romans d'espions le réseau qui s'appellera plus tard le réseau Roméo. Je dois vous dire que Ramon Mercader, c'est un précurseur de ce réseau des espions et des espionnes, parce que il utilisait l'amour comme un appât. Et dans la réalité, où il y a ce côté shakespearien, il y a un véritable amour là-dedans, mais en même temps une manipulation de tout premier plan. Et finalement, c'est comme ça qu'il va tuer Trotsky.
Alors je résume, cette Maria Caridad qui a été recrutée par Leonid Aitingon, dont elle est la maîtresse, décide d'envoyer son propre fils comme tueur. Elle l'envoie lui-même à la mort. Enfin bon, là en l'occurrence il va finir par faire 20 ans de prison, mais il aurait très bien pu être tué dans cette affaire. Elle l'envoie dans le nid de guêpe.
Je dois vous dire que tous ces gens-là, même toutes ces espions que je décris, ils n'ont jamais travaillé que pour l'idée. C'était les gens fanatiquement attachés à ce combat. Pour eux, il y avait deux choix. Soit un choix en faveur de Staline, soit un choix en faveur d'Hitler. Et pour combattre Hitler, tous les moyens sont là. Et je dois vous dire qu'ils étaient prêts à se sacrifier et même de sacrifier ce qu'il y a plus cher. Qu'est-ce que la phrase exacte qu'on m'a rapportée? Oh, je vais donner à Staline le meilleur cadeau. C'est quoi? Mon fils et son fils, il va
ce
tuer.
Ce qu'elle a de plus cher, elle le donne à Staline donne, pour qu'il aille, tuer son ennemi,
c'est.
Alors, ça a été évidemment une longue affaire, parce qu'il a fallu que Ramon, qui se faisait appeler Mornar à l'époque, aille séduire cette jeune, enfin pas jeune, cette femme trotskiste, dont il ne savait même pas encore qu'elle allait devenir la secrétaire de Trotsky du reste.
Non, ils ont repéré qu'il y a des contacts.
Ça,
c'est
voilà.
C'est un appât. Il y avait vraiment des gens. Tous ces personnages, c'est flamboyant. Il ne faut pas se leurrer. C'est pour ça que je décris finalement parce que.
Mais ah, c'est de bons personnages.
Bien sûr, les personnages. Mais autour de Trotsky, il y a beaucoup de tueurs qui sont rodés. Les grands peintres. Vous avez si bien décrit ce moment.
Le premier attentat.
Mais c'était Siqueiros, un des plus grands peintres de la Mexique éternelle, qui a physiquement utilisé les armes contre Trotsky. Il faut aussi comprendre que Trotsky, c'est deux facettes de communisme qui ont quand même existé. Trotsky, c'était un personnage, disons, international. La révolution permanente. Staline, c'était la révolution
nationale.
Dans la réalité, Staline, c'était un vrai tsar rouge. Mais détrompons-nous, Lénine, Trotsky et Staline, ils ont été d'accord sur un point. Qu'il faut utiliser la terreur de masse à outrance, et là ils ont été d'accord, et je dois vous dire que on raconte les choses terribles à propos de lui, mais quand même tous les trois ils sont responsables au moins de 25 millions d'assassinats là-bas en Union soviétique.
Alors, tout le monde, je pense, a rejeté, en tout cas en France, presque tout le monde a rejeté Staline depuis bien, bien longtemps. Pour ce qui est de Trotsky, c'est plus subtil, bien entendu, parce que le personnage passe pour, en quelque sorte, l'intellectuel, le vrai révolutionnaire, celui qui est pour la révolution à tout craint et dans tous les pays, en fait. Hein,
Mais là, les Russes, par exemple, ils sont tout à fait allergiques à ce concept. Puisque le concept, vous avez raison, ce qui s'est développé, on le retrouve.
Notamment en France.
Notamment en France, Trotsky, c'est un bon intellectuel, brillant plutôt. Lénine, mi-figue, mi-raisin, un peu assassin, mais quand même brillant intellectuel. Et la médiocrité absolue, c'est Staline. Je dois vous dire que ça ne correspond absolument à rien.
Pas à la vérité.
Tous les trois sont assassins, mais ceux qui sont les grands assassins, les grands criminels.
On va encore se faire des amis.
Des grands assassins devant l'éternel. Et je dois vous dire que le paradoxe de la situation, et ça, j'ai regardé la télé russe il y a quelques jours, ça va nous ramener aux espions, parce que ça me ramène à la prédiction de
madame. On va y venir aux espions.
Mais c'est juste un mot. Vous imaginez, Staline aujourd'hui, c'est de loin, le personnage le plus populaire du pays sur le plan historique.
Actuellement.
Trotsky, oublié.
Ça, vous l'avez prédit, Vladimir Fedorovitch.
Absolument. Mais parce qu'on est bon, on est des bons analystes. Et vous vous souvenez de notre émission il y a quelques années, et on a raconté.
Mais on vous l'avait prédit qu'il serait un jour très populaire. Racontez cette anecdote.
Tous les deux. Mais je dois vous dire que même rien que quand il s'impose, vous avez dit comment il s'impose. Vous imaginez, il ment à Trotsky sur la date de l'arrivée de l'enterrement de Lénine. Si Trotsky était là le jour de l'enterrement, peut-être ça aurait pu s'en changer. Trotsky, Staline lui dit ne viens pas, surtout ne viens pas, ta santé est plus. Il est à la chasse à Tiflis, dans le sud de la Russie, et Trotsky ne vient pas. Et là, Staline s'impose d'une manière extraordinaire. Il copie.
Il les vince, en fait.
Absolument. Et finalement, c'est comme ça. Mais c'est une autre histoire.
Revenons
à l'instant, on est avec Marie Mercader.
Alors voilà, revenons à cette Marie.
Et vous imaginez que finalement, cette histoire a été connue aussi par l'histoire d'amour. Parce que Mes espions, c'est vraiment des grands amantes. Et il a une histoire. Il était désenchanté par Aitingon, il pensait que c'est l'homme de sa vie, dans la réalité c'était un grand espion, un peu volage, il y a
c'est bien
toujours,
moqué d'elle,
je pense qu'il y a une vraie histoire d'amour, mais simplement, il est comme les grands militaires, vous savez, dans le champ, dans chaque endroit où il y a des grands manœuvres, il y a toujours une maîtresse. Et Mercader, évidemment Mercader aussi, il était une de ses maîtresses, mais cela dit, Aitingon, il était ailleurs. Et il s'est réconforté dans les bras d'un grand réfugié espagnol, un communiste espagnol, à Moscou. après avoir été décoré par Staline, les grandes médailles, etc., pour cet exploit de l'assassinat de Trotsky. Et pendant une nuit d'amour, elle lui avoue que c'est son fils qui a tué. Et cet amant, il a passé à l'Ouest. Et comme ça, c'était connu. C'est comme ça. Et d'ailleurs, les conditions de l'emprisonnement,
de détention,
ont été améliorées nettement. Mais Mercader, il terminera sa vie comme un personnage de tout premier plan.
Il a été condamné en 1940. Il va faire 20 ans de prison en Mexique. Ça veut dire qu'il est libéré en 1960.
Bien sûr, mais il va venir en Union soviétique. Évidemment, les plus grandes décorations. Mais à ce moment, Eitingon, il était arrêté puisqu'il était mêlé au complot. Il a essayé de libérer le copain de sa mère à Eitingon. Malheureusement, il n'a pas réussi. Et alors, où va-t-il? Il va à Cuba.
En 75.
Et vous imaginez, il devient le conseiller très écouté de Fidel Castro pour Guérilla, pour les affaires de sécurité. Il va mourir au Cuba, mais son corps, quand il va mourir, il sera ramené là-bas en Union soviétique et toujours les enterrements avec une grande pompe. Il y a une seule inscription. Le grand héros de l'Union soviétique, Ramon Mercader.
La valse numéro 2 de Dimitri Chostakovitch sur Europe 1. Et nous sommes avec vous, Franck Ferrand, et votre invité, Vladimir Fedorovski, écrivain et ancien diplomate, auteur du livre Le roman des espionnes, paru aux éditions du Rocher.
Alors Vladimir, lorsqu'on lit votre livre, on se dit que vous auriez presque, à deux exceptions près, pu l'intituler « Le roman des espionnes russes ». C'est une grande spécialité russe que de se lancer dans l'espionnage lorsqu'on est une jolie femme.
Oui et non, mais il y a les inventions russes. Il y a le fait que la Russie, grâce à Trotsky notamment, a été placée au centre des événements du XXe siècle. Et surtout, ni avant le XXe siècle, ni j'espère après, il n'y avait pas une influence si importante. Les espions sont partout. Ils ont été derrière la révolution russe, derrière les événements de la Première Guerre mondiale. Deuxième Guerre mondiale a été changée, la fin du communisme. Mais c'est pas la politique qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait dans le roman des espions, c'est leurs histoires personnelles.
Et c'est leur personnalité.
Personnalité.
Parce qu'on se rend compte que ce sont toutes des femmes assez extraordinaires, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Elles ont un point commun, c'est que toutes restent parfaitement discrètes sur ce qu'elles font en matière politique, évidemment.
À une exception près de la dernière espionne que je décris, le pilier du système Poutine, mais c'est pas une vraie espionne, c'est plus les confidences sur l'oreiller. Anna Chapman, d'ailleurs ukrainienne, parce qu'on est dans l'actualité ukrainienne, cette espionne, c'est une espionne. Mais vous avez raison, pour moi c'était toute une enquête que je dois mener, parce que c'est beaucoup de fabulation, mystification. J'ai eu la chance de connaître certaines de ces femmes, souvent d'exception. Je ne suis pas dans le jugement. Je raconte ces femmes qui ont changé la face du XXe siècle. C'est ça qui est le plus intéressant pour moi.
Nous avons eu l'occasion ici de parler d'un certain nombre de grandes espionnes du XVIIIe, du XIXe siècle. Je parlais par exemple de espionne, en tout cas agent diplomatique secret, pour être plus juste. Je pense par exemple à la comtesse de Castiglione qui a joué un rôle très important auprès de Napoléon III. Mais on a l'impression qu'au XXe siècle, tout ça se professionnalise et que le XXe siècle aura été le siècle des espionnes d'une certaine manière.
Ça c'est absolument incontestable. Parce que chaque fois, parfois ça change. les choses d'une manière absolument définitive. Il y a une espionne extraordinaire qui a travaillé au Japon et qui était toujours le Playboy à côté, un des plus grands espions, Sorge pour les initiés, qui a partagé sa vie sentimentale avec la maîtresse du premier ministre japonais, toutes les confidences sur l'oreiller.
Extraordinaire
les choses. Mais vous savez, quand Hitler était à 6 km du Kremlin, cette femme a donné à Sorge et Sorge à Staline l'information capitale. Le Japon n'attaque pas l'Union soviétique, elle attaque les États-Unis. Et ça a changé tout. Staline a suramené les dernières forces et c'est ça qui a changé carrément, disons, la guerre, la face de la guerre, parce que Hitler, à l'époque, était à 6 km de Kremlin. Il y a cette femme qui a, ça, c'est un grand problème pour moi. C'était une actrice du cinéma muet, une meilleure copine d'Eva Braun, qui a que Hitler, il y a toujours le pittoresque dans le roman des espions, les grandes évidemment réceptions, et elle reçoit toujours Hitler, etc. Et puis, Hitler venait souvent. Il y a quelqu'un qui m'a alerté, un grand homme de théâtre, il a dit, mais elle a informé Staline sur le côté Hitler médium. Vous avez fait une émission sur le médium. Vous savez, côté médium, visualisation de l'avenir. J'ai commencé à creuser. J'ai essayé de voir les archives en allemand. Elle a nié tout. Jusqu'à ce que, numéro de Gorbatchev, il me donne des preuves et que je publie les preuves dans le roman des espions, que elle a proposé et elle était capable de tuer Hitler. Et à la dernière minute, Staline, elle a arrêté. Parce que si Hitler est tué en 43, dans ce cas-là, le cours de la guerre change. Et peut-être les successeurs s'arrangent avec les Occidentaux, ce que Staline ne voulait pas. Là, l'espionnage aux États-Unis, je raconte Hitler, bien sûr, mais au-delà d'Hitler, il y a des grands personnages aux États-Unis. Par exemple, les Kennedy. Vous savez qu'ils sortaient avec, en compagnie, j'ai failli dire avec, parce que non, ils sortaient plutôt en compagnie d'un grand espion russe. Et pour voir les actrices, ils sortaient avec les actrices de cette fois-ci d'Hollywood. Et la crise de Cuba, on n'a pas le temps de raconter en détail, mais je dois vous dire, c'est une grande affaire de malentendu. Ils savaient que leur copain, c'était espion, il travaillait comme sous la couverture de journaliste. Il racontait les choses essentielles à lui pour qu'il passe au Kremlin. Et l'autre, il n'avait pas accès au Kremlin, il est juste allergé à sa hiérarchie. Et ça a failli mal terminer avec la crise de Cuba. Ou bien l'actrice est dans le lit de Robert Einstein. La bombe américaine piquée par une espionne. Tout ça, c'est quand même, vous imaginez bien, la bombe atomique piquée, ça change la cour de l'histoire, ça change l'équilibre de force. Tout ça, c'est les femmes qui ont été au centre de ça.
Et y compris sur des chapitres infiniment moins stratégiques ou moins sensibles dans l'histoire, mais qui néanmoins restent importants. Je pense à de grandes personnalités intellectuelles comme Romain Rolland ou bien sûr Aragon, dont nous avons parlé ici même à ce micro, et dont les épouses ont aussi joué un rôle.
Je vais vous dire, moi je suis assez prudent, rien que pour le fait que j'ai bien connu Aragon et j'ai très bien connu Madame Romain Rolland. J'utilise le terme plutôt, disons, les agents d'influence.
Voilà, c'est ça, très juste.
Parce que Staline, il utilisait le terme un peu plus rude, il utilisait le terme agent d'influence, c'est sa terminologie dans la réalité, mais d'autre part, il utilisait le terme aussi des idiots utiles. Est-ce que c'était vraiment les idiots utiles? C'est très difficile pour moi de le dire, parce que ça me revient justement après cette élection de Staline comme le personnage le plus populaire de la Russie aujourd'hui. J'ai eu des longues conversations avec Madame Romain. C'est une très belle femme, c'était une très belle femme qui était une poétesse.
Maria Koudacheva.
Koudacheva d'origine française, du Vivier, d'origine française au début. Vous comprenez, vous dites que c'est qu'il n'y a que des Russes, mais il y a quand même des Françaises aussi. Et elle, le problème, c'est que ces gens-là, ils ont été sincèrement amoureuses. Moi, je suis certain que Elsa était amoureuse d'Aragon, Madame Romain Rolland, évidemment amoureuse de Romain Rolland, et une fois, juste quelques mois avant sa mort, elle me dit, je suis anti-stalinien convaincu, elle me dit, vous savez, des années vont passer, Et ils vont me donner raison. Nous avons choisi Staline parce que il y avait un seul choix. C'est soit Staline, soit Hitler. Et vous allez voir, Staline sera réhabilité. Je suis vraiment bouleversé aujourd'hui, que vous imaginez dans la Russie aujourd'hui, après 25 millions de morts tués par Trotsky, Lénine et Staline, il y a toujours Staline qui se dégage comme un personnage. Néanmoins, c'est elle qui a ramené quand même Romain Rolland à la rencontre de Staline. Et c'est Madame Romain Rolland qui animait objectivement une sorte de réseau.
Alors ça, ce sont les agents d'influence. Et puis il y a les vrais espionnes, hein, les agents professionnels.
Ah, mais ça, c'est les vrais espions. C'est quand vous êtes formé. Ouais. Exactement, parce que dans le roman d'espion, j'établis quand même une sorte de, si on me permettait, une catalogue. J'aurais préféré le mot menu comme pour votre émission. Mais en tout cas, il y avait des femmes qui ont été des premières. Ils ont été, par la fureur de l'histoire, les pionnières. Il y a les femmes qui ont été carrément professionnelles. Il y a les esthètes, comme Madame Romain Rolland. Et il y a quand même, là, les plus farfelus, les espions de charme. Ça, on parlera peut-être. Mais il y a les femmes qui ont été formées. J'ai fait une enquête comment elles sont formées. Parce qu'ils sont formés d'une manière très bizarre. Ils savent dissimuler les assassins. Ils peuvent vous assassiner. Il y a un petit engin, par exemple, qui émet les ondes, la radioactivité. Et vous êtes 3 mois après, vous êtes morte. Vous êtes mort. Pourquoi? Parce que vous recevez une dose de radioactivité, personne ne décède. Comment assassiner? Tout ça, c'est la formation de ces espions. Et en l'occurrence, je raconte cette formation parce qu'il y avait une des plus grandes espions du XXe siècle. Elle était vraiment cosmopolite, elle est d'origine roumaine. Engagement total idéologique en faveur de Staline dans la lutte contre le Shoah, contre Hitler, etc. Et il a utilisé cet engagement naturel contre Hitler pour entrer dans le contact direct avec les inventeurs de la bombe atomique. Et je dois vous dire que ces gens-là, comme Robert Einstein, ils ne faisaient pas... Je raconte comment ils ont placé une femme dans le lit de Albert Einstein. Je dois vous dire qu'ils ont été conscients de ça. Oppenheimer, qui est le dirigeait le projet
programme atomique
de la bombe atomique, le projet américain à Los Alamos, il savait qu'ils ont inventé l'arme tout à fait dramatique, vraiment fatale pour le monde. Pour le monde, il pensait que de tenir seulement dans cette arme entre les mains seulement des Américains, c'est dangereux. Il voulait que ça soit partagé, et cet espion l'a convaincu, et en réalité, ils ont placé tout un réseau autour de ça, et comme ça, ils ont piqué la bombe atomique, et l'équilibre de la terreur, qui enfin, finalement, a déterminé tout le XXe siècle. L'équilibre de la terreur, c'est grâce à cette femme-là, elle s'appelait Elisabeth, une grande espionne formée spécialement, une grande professionnelle devant l'éternel. D'ailleurs, là, si on est dans les choses dramatiques, mais il y a les choses qui concernent l'opérette. Et ça, c'est le réseau Roméo.
Alors le réseau Roméo, ça c'est pas mal non plus. Hein. C'est-à-dire qu'on recrute exprès des agents de charme. En fait, c'est le KGB qui faisait ça. Hein.
Absolument. Ouais. Les agents de charme, ils placent dans le lit ces agents de charme, séduit les évidemment les secrétaires, parfois pas seulement les secrétaires, mais il y a les actrices de Bolchoï. Il y a la célèbre histoire que je raconte dans les romans d'espionnage, juste un mot, parce que c'est le mot de Gaulle. L'ambassadeur français qui était piégé. De Jean, pour je l'ai connu, il m'a raconté ça lui-même. Et finalement, De Gaulle le convoque et la seule punition qu'il a dit, il enlève les lunettes, il a dit « Alors De Jean », et je traduis De Gaulle d'une manière polie, « On couche ».
Alors on couche.
On couche dans les
romans. Vladimir Fedorovski, le roman des espionnes, c'est aux éditions du Rocher, dans la collection que vous dirigez vous-même d'ailleurs, Vladimir. Alors on a Mata Hari en couverture parce que vous parlez de Mata Hari, vous parlez aussi de la baronne Boudberg, etc. On n'aura pas eu le temps de toutes les évoquer, mais elles sont là. Je signale également une réédition, Les espionnes du XXe siècle de Raymond Ruffin aux éditions France Empire, et puis de Philippe Valode, Espions et espionnes de la Grande Guerre. Si je puis dire, les espionnes sont à la mode, comme vous, Vladimir Fedorovski.
Restez avec nous, à suivre sur Europe 1, Franck Ferrand répondra à la question de Sophie qui nous a écrit sur Facebook. Sophie souhaite connaître les origines du droit de veto. Réponse dans un instant sur Europe 1.
Retour aux origines.
Et nous vous retrouvons, Franck. Vous répondez à la question de Sophie qui voudrait connaître les origines du droit de veto.
Alors, veto, en latin, ça veut dire tout simplement je m'oppose, je refuse. Hein, c'est le verbe vetare qui est s'opposer à quelque chose. À la première personne, ça fait veto. Et du reste, le droit de veto est un droit antique, puisque vous savez qu'à Rome, autrefois, vous aviez d'un côté les patriciens qui représentaient la haute société, et puis les plébéiens qui représentaient le peuple. Eh bien, le tribun de la plèbe disposait de ce droit de veto qui lui permettait de s'opposer à certains des décrets qui avaient été votés et dictés, en tout cas par le Sénat. En France, on retrouvera ce droit de veto beaucoup plus tard, lorsque l'Assemblée constituante de 1789 accorde à Louis XVI ce dernier rempart contre le pouvoir révolutionnaire, en quelque sorte. Il s'agissait d'un veto suspensif, c'est-à-dire que l'Assemblée pouvait passer outre à l'opposition du roi après que le délai imposé, qui était quand même un délai de 2 législatures, s'était écoulé. Une législature, c'était 2 ans, ça veut dire que le roi pouvait, quoi qu'il arrive, repousser un décret, quel qu'il soit, ou une loi de 4 ans. Le roi, Louis XVI, va utiliser, hein, bien entendu, ce droit de veto, d'abord à propos des prêtres réfractaires qui lui tenaient beaucoup à cœur, aussi sur l'établissement d'un camp de 20 000 fédérés aux portes de Paris. Ça inquiétait beaucoup Louis XVI, qui avait mis son veto. Et tout ça, évidemment, va être très mal vécu par l'opinion. On se met à hurler dans les rues, vous savez, « Ah bah, monsieur veto, vive les sans-culottes !» Et vous connaissez bien sûr les paroles de la Carmagnole. Madame Veto avait promis de faire égorger tout Paris. Madame Veto, c'est Marie-Antoinette. Et puis, monsieur Veto avait promis d'être fidèle à son pays. Ça, c'est Louis XVI. Depuis, le droit de veto n'a plus jamais existé dans aucune des constitutions françaises. La seule exception qu'on pourrait citer, évidemment, c'est le droit de veto dont disposent les 5 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais ça, vous avouerez que ça nous entraînerait vraiment très loin.